Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Green Book sur les routes du Sud de Peter Farrelly remporte l'Oscar du meilleur film. Ce long métrage raconte la tournée d'un pianiste noir dans les années 60. Plus largement, la diversité était à l'honneur de ce cru 2019 des Oscars. Analyse dans un instant. Nous irons ensuite à Cuba après le référendum sur la nouvelle constitution. Le oui devrait sans énorme surprise l'emporter. Et puis, quelle mobilisation encore en France contre la réforme du lycée. Les vacances scolaires n'y changent rien. Des professeurs continuent à mettre des 20 sur 20 pour brouiller le processus d'orientation. Rencontre à suivre. Le groupe Queen a ouvert cette nuit la 91e cérémonie des Oscars à Los Angeles. Fin de la saison des prix cinématographiques et nous connaissons le palmarès complet depuis moins d'une heure. Green Book sur les routes du Sud de Peter Farrelly a donc emporté 3 Oscars, dont la prestigieuse statuette du meilleur film. C'est l'histoire d'une amitié entre un pianiste noir et son chauffeur blanc dans les années 60. Il n'y a évidemment pas que ce film-là qui a été récompensé cette nuit. Bonjour Cécile de Kervas-Doué.
Bonjour.
Cécile, les Oscars ont misé sur la diversité.
Oui, c'est ce qui a plané durant toute la cérémonie au Dolby Theater et ce qui ressort des prix attribués par un jury dont, il faut le savoir, un quart avait été renouvelé cette année par l'Académie des Oscars, justement dans le but de faire plus de place à la diversité. C'est Regina King, l'actrice noire américaine, qui a ouvert le bal en recevant l'Oscar du meilleur rôle féminin pour son interprétation d'une mère courage dans Si Beale Street pouvait parler à Barry Jenkins. Puis Spike Lee a reçu le premier Oscar de sa longue carrière pour le meilleur scénario adapté à son film Black Landsman, Comment j'ai infiltré le Ku Klux Klan. Le cinéaste militant de la cause noire américaine depuis les années 80, connu notamment pour Malcolm X, a sauté dans les bras de l'acteur Samuel Lee Jackson qui lui remettait son prix avant de lancer que 2019 était le 400e anniversaire de l'arrivée du premier contingent d'esclaves noirs aux États-Unis. Rami Malek a ensuite reçu, lui, l'Oscar du meilleur acteur pour sa performance dans le biopic à la gloire de Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody, un Oscar qu'il a voulu lui aussi placer dans la défense des minorités. « Je pense au petit garçon que j'étais », a-t-il déclaré, « fils d'immigrés égyptiens nés aux États-Unis. Et je me dis qu'avec ce film qui parle de la réussite d'un immigré et d'un homosexuel, mon histoire à moi est en train de s'écrire. Ça montre que c'est encore possible d'être immigré et de réussir dans ce pays. » Et le refrain a continué encore avec la récompense du Mexicain Alfonso Cuarón qui a reçu l'Oscar du meilleur réalisateur pour son film Roma, pour lequel il a aussi reçu l'Oscar du meilleur scénario. Cet Oscar est pour les 70 millions de travailleurs autochtones dont les droits sont bafoués aujourd'hui dans le monde. Vive le Mexique, a lancé le réalisateur, avant de laisser donc la place à toute l'équipe de Green Book de Peter Farrelly. Un film sur l'amour, la tendresse, en dépit de toutes les différences, a lancé le réalisateur, brandissant son trophée. Un palmarès très noir, américain et immigré compatible donc cette année. Mais déjà, sachez-le, la presse et Twitter commencent à regretter l'absence des femmes.
Merci beaucoup Cécile de Kervas-Doué pour ces précisions matinales. L'opposant vénézuélien Juan Guaido se rend aujourd'hui en Colombie, à Bogota. Il veut y demander l'intensification de la pression internationale sur le régime du président élu Nicolas Maduro. Ce week-end, l'aide humanitaire est restée bloquée aux frontières du pays. À Bogota, Juan Guaido retrouvera les représentants du groupe de Lima, composé de 14 nations du continent, majoritairement hostiles à Maduro. Le vice-président américain Mike Pence sera présent également aujourd'hui. Le camp du président sénégalais Macky Sall revendique la victoire après le premier tour de la présidentielle ce dimanche. Les résultats officiels ne sont pourtant pas attendus avant plusieurs jours et l'opposition affirme déjà qu'il y aura un second tour à cette présidentielle. L'attente aussi à Cuba où l'on votait hier sur la nouvelle constitution. Un référendum était organisé dans le pays. Le projet maintient le rôle du parti communiste en tant que force qui conduit le pays. Mais le document reconnaît aussi l'existence du secteur privé qui a fleuri ces 10 dernières années. Il consacre l'importance des investissements étrangers et ouvre également la voie au mariage homosexuel à Cuba. Le oui à ce référendum ne devrait pas faire de doute, Romane Frachon.
Deux enfants, soi-disant volontaires, veillent au grain. Debout de chaque côté de l'urne, en uniforme, les yeux fatigués. D'autres distribuent les bulletins de vote. Une question, ratifiez-vous la nouvelle constitution de la République ? Deux réponses possibles, oui ou non. À en croire les citoyens, ils ont tous coché la première case. Vilma González est vétérinaire. Elle ne conçoit même pas que l'on puisse faire campagne pour le nom.
Ici, nous ne pouvons pas faire la propagande du non. On fait la propagande du oui. Il le faut. Point. Si vous vendez une boisson pour la commercialiser, vous allez faire une propagande pour le vendre, non ? D'autant que le oui nous représente tous. C'est la continuité de la révolution, de tout ce que nous a légué Fidel. Celui qui vote non, bah c'est son problème.
Certains ne prennent même pas la peine de se cacher derrière le rideau. Ils cochent directement oui et s'assurent que quelqu'un les a vus. Selon plusieurs experts, pourtant, au moins 30% ont voté non. Mercedes Albuquerque semble être la seule à reconnaître leur voix.
Si un article ne leur plaît pas, ils peuvent dire non. Par exemple, le droit au mariage entre deux personnes, ça a été retiré. Le machisme est encore très ancré. On ne peut pas changer les conceptions du jour au lendemain.
Mais à moins d'une grande surprise, le oui a déjà gagné.
Les résultats seront connus ce soir. En Suisse aussi, il est question de vote, sauf qu'aujourd'hui, c'est un faux vote qui est organisé. Un bug bounty, comme disent les pirates, les hackers, comprenez, une prime au bug. Une récompense est offerte à tous ceux qui vont réussir à détourner le système de ce vote électronique. 132 000 euros sont prévus. Les hackers, les pirates ont un mois pour manipuler les suffrages. L'idée est de s'en servir ensuite pour améliorer le système de vote électronique avant de le déployer en Suisse, Jérémy Lanche.
Le concours de hacking ne démarre qu'aujourd'hui, mais déjà le code source du système de vote développé par la Poste a fuité sur Internet. Alexis Roussel est membre et ancien président du parti pirate suisse.
On a des experts internationaux qui ont commencé à regarder et ils font des commentaires par rapport à ce code-là. Et puis on se rend compte que la qualité du code, ça préjuge pas de la sécurité du code, mais que la qualité du code n'a pas été faite à la hauteur de ce qu'on peut attendre d'un logiciel de vote électronique.
Autre problème, encore plus préoccupant pour Alexis Roussel, c'est la centralisation du vote par Internet. Aujourd'hui, plusieurs systèmes existent en Suisse, mais à cause de leur coût élevé, celui testé par la Poste pourrait bien devenir le seul à être utilisé.
Les gens doivent accepter que le code source reste la propriété de la Poste et de l'entreprise qui l'a fabriqué. On a un problème vraiment idéologique, politique très très fort, c'est est-ce qu'on peut accepter qu'un système de vote électronique soit la propriété d'une entreprise privée.
Il reste quand même des garde-fous. En Suisse, on vote tout le temps, sur tous les sujets et sur tous les supports. Difficile dans ces conditions de modifier complètement les résultats d'un scrutin.
Le vote par Internet en Suisse est vraiment mélangé avec les différents canaux. C'est pas un seul et unique canal de vote. Ce qui fait que quand vous avez 20% de la population qui vote par Internet, 70% par la poste et puis 10% qui viennent à l'urne, en fait, vous pouvez comparer les résultats et voir qu'il n'y a pas de différence entre les différents canaux.
Les hackers ont jusqu'au 24 mars pour tester le dispositif. Un comité d'opposants demande lui un moratoire de 5 ans sur le vote électronique jusqu'à ce qu'il soit aussi sécurisé que le vote papier.
Jérémy Lange depuis Genève pour France Culture. Il n'y aura pas d'impôt sur le revenu pour tous. La piste d'un impôt universel est écartée par Matignon, alors que l'idée avait été présentée hier matin par la ministre de la Cohésion des Territoires, Jacqueline Gourault. Elle voulait que les plus modestes aussi payent, ne serait-ce qu'un euro symbolique. 43% des Français s'acquittent aujourd'hui de l'impôt sur le revenu. Quand les vacances scolaires commencent pour certains, elles se terminent pour d'autres. Pour la zone B, ce matin, les cours reprennent notamment dans les académies d'Aix-Marseille, Lille, Nancy, Metz, à Nantes, Nice, Orléans, Rennes, Tours ou encore Strasbourg. Et la mobilisation contre la réforme du lycée continue. Certains professeurs ont notamment décidé de mettre des 20 sur 20 à leurs élèves pour bloquer le processus d'orientation par les notes. Sonia Princet a ainsi rencontré des professeurs du prestigieux lycée Sophie Germain en plein cœur de Paris.
Dans ce lycée réputé de la capitale, les élèves vont être surpris d'avoir 20 sur 20 de moyenne sur leur bulletin. C'est pourtant ce qu'a décidé le collectif des professeurs en colère du lycée Sophie Germain. Ils continuent à donner des contrôles et à communiquer les vrais résultats dans la classe, mais ils refusent que les élèves soient sélectionnés par les notes pour le choix des spécialités.
Donc au moment du conseil de classe, évidemment, cela va un petit peu gripper le système, parce que en face de nous, nous avons des directions, nous avons le rectorat, nous avons un ministère qui, on le voit très bien à leur réaction depuis quelques jours, ont vraiment besoin d'avoir une hiérarchie des élèves par la note, en fonction de ceux qui ont au-dessus de 12-14, de ceux qui sont entre 12 et 8, de ceux qui sont en dessous de 8. Et en fait, avec cette action-là, on bloque leur organisation administrative.
Les parents ne sont pas forcément convaincus par ce mode d'action. En revanche, beaucoup d'élèves soutiennent les professeurs qui s'opposent à la réforme du lycée.
Je trouve que les profs, ils ont trouvé un moyen qui est peut-être pas le meilleur moyen, mais qui est un moyen qu'ils n'ont pas essayé, donc peut-être que ça va marcher. L'éducation française tient beaucoup aux notes, effectivement, même si c'est malheureux. Et du coup, jouer sur les notes, ça peut peut-être marcher. Ça peut faire réagir dans la mesure où si tous les élèves ont 20, il y a un moment où ils vont être obligés de faire quelque chose. Et je sais qu'il y a plein de profs qui vont laisser leur 20.
Selon un vote organisé dans ce lycée, 91% des professeurs se sont prononcés contre la réforme qui doit s'appliquer à la rentrée.
Au moins 1400 hectares de végétation ont brûlé depuis samedi en Corse. Au total, l'île a connu 48 départs de feu en 24 heures. Les pompiers espéraient cette nuit que le vent baisse d'intensité pour éviter la propagation de ces incendies avant le retour des secours ce matin. Et la semaine commence comme ce dimanche, sèche et ensoleillée en Corse également. Comptez 6 degrés à Strasbourg, 7 à Lille, Nantes et Lyon, 8 degrés à Paris ce matin, 13 à Marseille.